Matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser, bonsoir, cette semaine consacrée à poésie et histoire. Ce soir, je suis heureux, je suis ému aussi d'accueillir Olivier Barbaran. Olivier Barbaran est né à Bar-sur-Aube le 5 mars 1966, soit 13 ans, jour pour jour, après l'annonce officielle du décès de Staline, ou 44 ans exactement après la naissance de Pasolini, ce qui lui paraît un rapprochement plus glorieux. Bonsoir Olivier Barbaran.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Bon, c'est vous qui avez écrit cette biographie.
Oui, jamais personne n'aurait osé si ce n'était pas l'auteur lui-même, oui, c'est bien moi.
Que je vais en reparler, mais que je lis donc dans les Odes dérisoires et autres poèmes, qui est votre poésie Gallimard, qui est parue l'année dernière.
Oui, le poésie Gallimard qui a été un cadeau inespéré, inattendu et assez éblouissant et qui a renvoyé à tous ces auteurs qu'on a appris à lire d'abord dans cette collection de poche. Enfin, que la poésie soit en poche ou de poche me plaît énormément.
Ça vous plaît parce que par ailleurs vous êtes aussi doyen du groupe Lettres de l'Inspection Générale, c'est-à-dire que vous avez une vie aussi professionnelle pour la diffusion des lettres.
Oui, dont les caractéristiques paraissent parfois un peu éloignées ou antagonistes, il me semble que malgré des différences notables entre le statut de poète et celui plus institutionnel que vous avez rappelé, Patrick Boucheron, il me semble qu'il y a plus que des liens et puis des contradictions que je vis finalement assez bien.
L'année dernière, j'avais lu dans le roman de Patrick Deville, Tabac, cette notation. La France, c'est le pays où se vend 1000 exemplaires de poésie Gallimard par jour. J'y croyais pas, j'ai été voir sur le site et de fait, ça fait 50 ans que la collection existe. 17 millions d'exemplaires vendus, faites le calcul, ça fait bien 1000 exemplaires par jour, c'est incroyable quand même.
C'est incroyable et je crois tout de même que l'école n'y est pas pour rien, ce qui renvoie à ce que nous avons dit. Je pense qu'Apollinaire est l'un des premiers et quelques autres.
Oui, c'est le plus vendu et c'est celui que vous avez lu en premier peut-être, Olivier Barbaran ?
C'est celui que j'ai dans ma bibliothèque, dans un format un peu plus petit que celui qui existe aujourd'hui, plus carré, avec des pages plus épaisses et qui se cassait dès la première lecture. Donc il est en miettes et en lambeaux.
Et puis le visage était aussi décliné en plusieurs couleurs.
Oui, avec quelque chose d'un peu warholien dans cette multiplication des images qui est à identifier à jamais, je crois, à la découverte de la poésie.
Ça dit quand même quelque chose de la place de la poésie dans notre société ou en fait dans notre jeunesse, qui est, on va dire, clandestine et essentielle. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même toujours la place aujourd'hui pour cette manière d'être au monde.
Je le pense vraiment, et face à certaines déplorations devant le dégoût de la lecture, j'ai l'impression que ça peut concerner peut-être le roman, mais que la poésie a toujours vécu d'une certaine façon dans sa clandestinité et son souterrain. Et là aussi, je crois que c'est plutôt rassurant de penser que dans une société d'hyper communication, la véritable communication est souterraine, clandestine, d'individu à individu presque, parce que la communauté de lecteurs n'est pas... Elle est à la fois nombreuse, mais elle n'est évidemment pas commercialement intéressante. Et donc, il se joue peut-être quelque chose dans cette expérience de la lecture, notamment chez les très jeunes gens, qui est irremplaçable et qui est peut-être ce qu'il faudrait appeler communication.
Parce qu'on dit souvent, le problème de la poésie, le problème éditorial de la poésie, c'est que plus de gens en écrivent que de gens qui veulent bien en lire, mais c'est pas vrai. Au fond, vous avez fait vos premières armes dans les revues. La NRF, le Recueil, Théodore Malmoral, aujourd'hui Europe, c'est ça un des lieux de la poésie ?
Un des lieux de la poésie, de la littérature vivante, oui, ce sont les revues. Néanmoins, ne nous leurrons pas, la lecture de la poésie, et ce n'est pas forcément très gênant, elle a, vis-à-vis de cette plus grande diffusion dont vous parliez, elle a surtout, je crois, un siècle de retard à chaque fois, mais c'est ainsi. Voilà. Je pense que Apollinaire est un auteur parfaitement lu. J'espère qu'Aragon le sera pleinement au-delà de raisons politiques là, qui font peut-être ça. sa notoriété ou qui ont fait son lectorat. Mais après tout, écrire pour un siècle après, Stendhal le faisait, est-ce que c'est si gênant?
Oui, et puis vous avez écrit « Je ne suis pas Victor Hugo » chez Champvallon, dont il faut dire que c'est l'admirable éditeur de l'ensemble de votre œuvre poétique, ou presque, depuis 1992.
C'est mon éditeur, c'est le mien, c'est celui qui a bien voulu d'un très jeune poète et que je ne quitterai jamais.
D'ailleurs, puisqu'on va parler d'histoire, de poésie et d'histoire, et c'est pour cela que je faisais malicieusement commencement de cette notation biographique, l'année de la mort de Staline et l'année de Pasolini. Ailleurs, vous dites aussi l'année de l'élégie de Pablo Neruda. C'est-à-dire, ça veut dire que vous voulez inscrire dans une gamme d'admiration, en somme, votre naissance même.
Oui, c'est un geste qui peut paraître d'ailleurs aussi modeste que la négative qu'on a contestée dans « Je ne suis pas Victor Hugo ». C'est une façon pour moi de m'inscrire dans ce qui a fait date pour ma génération, ou en tout cas pour moi, ou de me reconnaître en génération. J'attire l'attention sur le fait qu'à part la naissance de Pasolini, il s'agit de la mort de Staline, de la fin du régime d'Allende. C'est peut-être une pause romantique, je ne crois pas vraiment. Ça dit quelque chose d'un rapport à l'histoire, comme d'une sorte de, si on quitte l'aspect un peu drôlatique que peut avoir ce genre de témoignage, je vois bien que ce que j'y dis, c'est que je rentre dans une histoire qui était aussi, d'une certaine façon, dans une voie d'achèvement. On peut s'en réjouir pour la mort de Staline, on peut le déplorer pour la mort d'Allende. Je crois que je suis rentré vraiment en pensée, peut-être même en politique, et en tout cas en histoire, à 7 ans. J'ai essayé de le raconter, et j'aimerais ne pas être la pleureuse d'une histoire disparue, mais je souhaite m'inscrire tout de même dans ces moments qui font histoire dans la vie d'un enfant et d'un adulte ensuite.
Vous écrivez justement dans « Je ne suis pas Victor Hugo » « Un homme n'est pas fait que du temps intime, du cœur qui cogne ou bien se tait. Je m'en suis voulu naguère par faiblesse, par incapacité de résister aux philosophies alors à la mode, de m'en tenir un peu trop à la seule perception, ce que nous appelions le rapport au monde à longueur de dissertation. Aussi éloigné semble-t-il à première vue, le rythme du corps et celui de l'histoire forcément se rencontrent, ce nous. » C'est un nous. On parlait la précédente semaine de matière à penser, de la consistance du nous, c'est un nouage ici, mais qui évidemment forme cette étrange conjonction entre le moi et le monde, entre l'histoire intime et l'histoire qui nous environne et qui nous blesse.
Oui, que je ne sais toujours pas bien articuler, mais je suis absolument convaincu de leur complète interaction, de leur complète possibilité de travailler ensemble. Simplement, ce qu'il y a de difficile, ce n'est pas de percevoir cela, même si, effectivement, dans une génération laminée par la phénoménologie de la perception et une sorte d'oubli de la pensée de l'histoire, pour ce qui est des littéraires, bien sûr, c'était déjà une première reconquête que de le rappeler. Après, comment dit-on ce « nous » et peut-on dire « nous » de ce nouage? Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que un certain type de poésie qui disait « nous » oubliait le jeu dans le « nous ». J'essaie de faire en sorte que ce jeu vibre d'un nouage, mais d'un nouage qui est toujours incertain et à mes yeux toujours précaire, ce qui en fait la difficulté.
Et d'ailleurs, vous écrivez toujours dans « Je ne suis pas Victor Hugo » les lycéens que nous formions. Au début des années 80, je dirais un peu tout à l'heure, si je suis ou pas dans ce « nous », éprouvait, comme je l'ai dit, quelque intérêt pour l'organisation de la cité, le passé qui la construisit. Ça, c'est votre engagement politique, mais dans l'organisation de la cité, mais m'intéresse aussi, puisque nous parlons, Olivier Barbaran, des rapports entre poésie et histoire, du passé qui la construisit.
Oui, parce que ce passé fait corps. Enfin, ce passé n'est pas une sorte de monument dans lequel on se promènerait et qui serait un corps différent d'une autre. Je suis tissu, nous sommes. Enfin, il n'y a de nous et il n'y a de possibilité même d'écriture, je crois, que par ce passé-là.
Et c'est un passé que vous désignez par des noms propres. Il y a dans vos proses, parce qu'il faut dire aussi, vous parliez de votre forme poétique, je ne sais pas si vous avez une forme poétique, d'ailleurs, vous en avez plusieurs. Il y a la lyrique amoureuse qui sans doute domine,
oui.
Mais d'autres qui viennent taper à la porte, non, parfois.
plus cela va, plus j'ai l'impression d'une profonde indistinction. J'ai publié successivement des versets un peu longs et des livres de prose, et après un livre de prose c'était des versets. Plus cela va, plus dans le même livre se mélangent un peu toutes ces formes. J'ai eu l'audace du vers conté dans la catastrophe de la mort des parents, comme si seul le vers conté pouvait tenir cela, et maintenant tout ça se mélange. J'ai en fait l'impression que je ne parviens pas tellement à m'approprier l'idée d'une forme. J'ai l'impression que partout où cette même voix passe, sous des formes différentes, l'unité est de voix peut-être plus que de forme.
Le dernier recueil qui vient de paraître aux éditions Champvallon, Un grand instant, se termine par un très beau poème qui s'appelle « Vie du sieur H » et de tant d'autres. L'historien que je suis ne peut pas, oui. trouver quelque chose dans cette grande H. Tous les vrais poètes sont en H. Homère, Hugo, Heine, Hésiode, Hérédia, Audelaire, Aragon, avec un H. Oui. Nous y sommes. Parlez-nous de cet Aragon.
Aragon, il fallait tout de même qu'il fût présent dans cette liste. Donc, au prix d'une légère maltraitance orthographique, c'était absolument indispensable pour moi. Il est celui par lequel, tardivement, et après... C'est sans doute un passage d'une première inflexion chez moi, ne lisant que des poètes du corps et de la perception, cet énorme continent géographique, historique, de tout un siècle qui est battu, rebrassé et reconfiguré par lui, m'a permis de m'émanciper un peu d'une poésie peut-être trop étroite. Et en même temps, il est celui qui n'a jamais cessé de poser la question de ce que c'était que d'inscrire l'histoire. Sauf que il était dans une temporalité où l'histoire l'a pris en pleine face.
Enfin, oui.
Il a écrit le présent et puis il a écrit la rétrospection. Je suis obligé de constater que dans le présent, dans le pas un peu conquérant du présent, il y a des choses qui sont de très belles œuvres mais qui commencent à devenir des documents. Et que ce qui m'a toujours le plus parlé, c'est que dire de l'histoire quand l'illusion d'un vecteur historique, d'un idéal à attendre, n'est plus là pour dynamiser le verre. Comment dire la défaite ? C'est vraiment ce qui m'intéresse.
Vous êtes Olivier Barbaran, l'éditeur des œuvres poétiques d'Aragon aux éditions de la Pléiade.
En effet.
Ce qui n'est pas rien.
Ce qui est à la fois une belle récompense et en même temps une responsabilité que j'ai trouvée sur le moment écrasante. J'ai écrit « Je ne suis pas Victor Hugo » au sortir de cette édition, comme s'il s'agissait pour moi de me rappeler que je pouvais exister à côté de lui.
Et c'est une manière aussi de dire que vous êtes moins homme de réticence que d'admiration. Vous en faites d'ailleurs la sociologie dont je ne suis pas Victor Hugo. Vous dites, voilà, je laisse aux héritiers le soin de mépriser leur patrimoine. Moi, je ne peux pas cesser d'admirer les grands noms.
Oui, c'est assez... comme un nom, Patrick Boucheron, ce que vous venez de me renvoyer.
Je ne veux pas vous renvoyer, vous l'écrivez.
Non, mais je me rends bien compte vous entendre que oui, je suis banalement quelqu'un pour qui la culture représentait un capital, représentait quelque chose qu'il fallait construire, et non pas quelque chose dans lequel on pouvait se débattre en repoussant. Il y a eu, vous savez, je ne sais pas, nous sommes de la même génération, il y a eu un grand moment cynique, qui n'est plus tellement à l'air du temps. Maintenant, c'est un grand moment bien pensant. Mais dans ce grand moment cynique, je ne parvenais pas du tout à me reconnaître dans cette espèce de dédain avec lequel on traitait des choses qui me paraissaient grandes. Enfin, la dimension de la grandeur ne me paraît pas handicapante ni terriblement intimidante. J'ai toujours pensé que la grandeur nous soutenait.
Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez publié, Olivier Barbaran, ces odes dérisoires et quelques autres un peu moins, dans lequel on trouve effectivement de la grandeur, une ode à Bérénice qui commence ainsi « Le siècle n'a plus de place pour le surplis des toges, tant mieux, je ne referai pas l'élégie au hélas », et étant le triste amant à son rêve accroché, parlant splendidement d'un Orient désert où le cœur seul s'ennuie. Et vous avez aussi une autre très belle élégie sur la cathédrale de Laon. Et là, je pense que on est un peu au cœur du rapport entre votre poésie et votre histoire.
Oui, je n'en avais pas du tout conscience, l'écrivant. C'est vrai que je ne peux plus ne pas penser, là encore, éclairé par vous, à se situer à cela, à une grande cathédrale de celui que je ne suis pas.
Et pourtant, vous dites, c'est dire mon peu de goût pour les normes, les tours trop hautes, le vain mensonge de l'élan. Vous préférez évidemment les églises romanes, mais voilà, il y a l'an, il y a l'histoire, il y a ces bœufs sur la terre, et puis il y a surtout... Combien de soldats de 20 ans as-tu vu mourir sur le plateau de boue qui te sert de traîne? Combien blessés au barbelé, leur corps comme un corail, crièrent qu'on les acheva? Combien d'enfants, leur chair ouverte à l'horreur du siècle, t'ont servi de nouveau Jésus? Murmurant, non plus pourquoi, mon Dieu, l'abandon, mais sous les ferrures d'octobre, le prénom fané d'une jeune fille. Et c'est ton ombre, tout à la fin, qui leur fermait les yeux. Vous embrassez tout ça, Olivier Barbaran, toute cette histoire, c'est-à-dire l'élan vers le ciel,
oui.
la cité de l'an qui est comme une lune, dites-vous, sur un dessin d'enfant, et puis l'histoire de la Picardie qui est aussi...
Et cette guerre de 14-18,
qui
est sans doute le premier nouage, si l'on en cherchait un, pour des raisons sont peut-être géographiques. Je ne peux pas. Enfin, j'ai vu constamment, quand j'étais enfant, le nom de ma famille sur ce monument aux morts. C'est une expérience là aussi très commune. Mais du coup, j'avais l'impression que ces récits qui paraissaient des récits presque préhistoriques, si éloignés, étaient très très proches. Enfin, j'ai l'impression que tout cela se joue, enfin, toute la difficulté que je peux éprouver, ou le sentiment d'une légère extériorité au regard d'une jeunesse qui semblait un peu décrochée, comme on a dit tout à l'heure, de sa propre temporalité, c'est que je compte en vagues de chair et d'hommes, si vous voulez.
Oui.
Finalement, 13 ans après la mort de Staline, c'est 30 ans après le Front Populaire. Le Front Populaire nous paraît aujourd'hui d'une antiquité, enfin peut-être pas pour l'historien que vous êtes, Patrick Boucheron, mais pour quelqu'un qui vit dans le présent, c'est une antiquité invraisemblable. Non, c'est 30 ans, ce n'est même pas la moitié d'une vie d'homme. Donc j'ai l'impression d'une très grande proximité. Enfin, ce qui m'intéresse dans ce passé, de façon non concertée, hein, parce que les poètes ne sont, je le dis volontiers, on croit toujours que c'est une pause, mais nous ne travaillons pas à l'intelligence, nous ne sommes pas très intelligents. C'est simplement ce moment où quelque chose advient dans mon présent d'une émotion qui me relie à cette histoire-là. Et ce lien est beaucoup moins intellectuel, mais aussi beaucoup moins distendu qu'on a pu le prétendre. Le soldat inconnu était comparable aux êtres que je pouvais aimer quand je lui ai écrit.
Vous lui avez écrit 12 lettres d'amour. 12 lettres d'amour au soldat inconnu.
En vrai, j'en ai écrit 13.
Ah.
Et la 13e, qui n'était pas intéressante. J'avais mis un timbre et je l'ai envoyé. Je n'avais pas mis mon adresse au verso et je l'avais envoyé à l'Arc de Triomphe. Monsieur le soldat inconnu, Arc de Triomphe. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle n'a aucun intérêt, sinon pour le geste. Il fallait quand même que cette correspondance, là aussi, s'incarne à un moment ou à un autre, parce que je vivais avec un spectre pendant que j'écrivais ce texte.
Mais Aragon, alors, je reviens à Aragon, parce que, au fond, c'est quand même celui qui vous accompagne depuis le plus longtemps, sans doute, Olivier Barbaran. Vous parlez, et admirablement bien, de Racine, de Montaigne, d'Apollinaire... De Victor Hugo, bien sûr, mais Aragon, ça revient tout le temps.
Oui, ça, il ne peut que revenir.
Et comment revient-il aujourd'hui, d'ailleurs?
Si j'essayais de faire une vision un peu intellectuelle de cela, j'ai le sentiment qu'il commence à revenir en ce que, après la période habituelle de purgatoire des grands auteurs, surtout quand ils sont liés, comme il l'a été, aux politiques, l'urgence des combats politiques s'effaçant, le statut de grand écrivain peut apparaître. Et je pense que il a l'avenir pour lui, franchement. Mais je crains un peu que cet avenir pour lui soit un avenir patrimonialisé. Je veux dire par là que l'Aragon de la Résistance est désormais, il a toujours été un peu incontestable, et puis les combats du communisme ou de l'anticommunisme s'effaçant, pour les jeunes gens qui peuvent le lire, c'est un très beau document. Encore une fois, ce qui m'a le plus bouleversé chez Aragon se joue dans la dernière période, ce qu'il est convenu d'appeler la dernière période, c'est-à-dire le moment où il prend conscience qu'il n'accompagne pas, peut-être en faux Orphée, une histoire qu'il chanterait, qu'il ferait en la chantant, mais une histoire qui prend la peine de déchanter pour se demander ce qu'il reste à faire de l'histoire ou dans l'histoire quand on a perdu.
Et un jeune homme, justement, ou une jeune fille, Olivier Barbaran, qui n'aurait aucune idée d'où se porterait cette voix, à quelle hauteur, à quelle ampleur aussi, puisque vous dites que Aragon vous a aussi appris la longueur, à ne pas avoir peur justement de cette amplitude de phrasé et de versification d'ailleurs. Quels seraient les quelques vers d'Aragon que vous auriez envie de lire à ce lecteur inconnu?
Lesquels? Sans doute, spontanément, on lit toujours l'épilogue des poètes. Moi, je lirais peut-être autre chose, qui est un texte que je trouve absolument admirable, qui s'appelle « Le spectacle à la lanterne magique », qui se trouve dans le roman inachevé. « Spectacle à la lanterne magique », où Aragon s'interroge justement sur la possibilité de représenter l'histoire et sur les moyens qui sont les siens. Quoi, comment, ou tout ceci, qui n'est après tout qu'une image à la dérive, un bouchon dans la tempête, entraîne-t-il ce poème de la grêle et des grandes migrations? Il faut essayer de se raccrocher à un mot, au moins une branche. La grêle, brusquement sur nous, c'est là que le désordre m'a pris, dans sa main de géant. Débrouille le brouillard, les ruines, remonte le fleuve alexandrin, cherche à comprendre, à entendre ta propre pensée. Où suis-je? Le poème s'ouvre donc sur ce désarroi, cette écriture qui tâtonne, et elle va essayer de cristalliser l'événement historique dont elle voulait parler, et c'est sous la forme de ce qu'il va appeler des vues. Il y a une première vue que je vous passe, et puis le verre coulisse et tout s'interrompt, au doigt du montreur glisse l'épinal, et comme une haleine au trou pâle et rond, il ne reste plus au blême fanal qu'un souffle incolore, un halètement. Allons, assis la jeunesse, on continue immédiatement, silence, on continue, seconde vue. Montre tes yeux, ils sont tout drôles, mais à quel bizarre football joues-tu, boulevard Saint-Germain, en cassant tout sur ton chemin? As-tu bu ton eau de Cologne pour tituber comme cela et rêver à des pugilats? Ta place est au bois de Boulogne, mon émeutier de chocolat. Vous aurez évidemment reconnu Patrick Boucheron le 6 février 34. Oui. Le poète s'achève avec le Front Populaire. C'est donc incendie du Reichstag, 6 février 34, contre-manifestation, pardon pour ce lapsus, du 12 février, puis Front Populaire, une petite chronique des années 30.
Tout est là, tout est disposé, et l'intelligence poétique propre de ces événements, qu'on ne trouverait pas évidemment dans un livre d'histoire, comment vous la définiriez?
Ça passe par le spectacle de la lanterne magique, oui. Assis la jeunesse en continu, c'est-à-dire que ces images qu'il aurait pu chanter sur le rythme royal du vers alexandrin, en faire une épopée un peu triomphale et fortement didactique et idéologisée. Nous sommes en 56, il va le raconter sous cette forme qui a tant retenu Bergman et Proust aussi de la lanterne magique, de ces images qui sont réelles, qui sont là, mais qui sont comme saisies dans le tremblement de leur propre émotion.
Bah, chantons justement, et puis on en parle après.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres. Nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme. Sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme. On n'est pas mouchard, on va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau. Haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie d'Olivier Barbaran qui est venu avec Colette Magny.
Oui.
Et on vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. J'ai toujours un frisson à entendre. Ce qui est d'abord pour moi le plus important, c'est-à-dire une voix. Une voix qui a une profondeur. On parle souvent de ces voix qui ont de la vie. ou du vécu comme des voix cassées. La sienne, c'est la puissance, cette intensité des graves, cette épaisseur charnue de la voix qui est son vécu. Ce n'est pas qu'elle soit brisée par le tabac ou ce genre de choses. C'est une voix qui tient la vie en elle de façon déchirante, je trouve.
Et puis il y a le texte.
Et puis il y a le texte, dont je me rends compte là encore que il s'agit d'un poème de Hugo qui, comme les poèmes d'Aragon, a été retravaillé. Comme Aragon, on a déplacé les strophes, les rimes pour le chanter. Elle a aussi fait son marché dans ce texte. C'est un texte qui me bouleverse par la célébration de la jeunesse, hein, ces deux garçons qui se prennent pour des dieux dans les Tuileries, dans le printemps des Tuileries, et qui ont un appétit vorace. Enfin, c'est une image de la jeunesse que je trouve étincelante, mais qui finissait tout de même dans la version de Victor Hugo, dans les poèmes non retenus, sur la dimension de la liberté. Et il y avait ce mot de liberté qui venait dans les Tuileries en 1850, qui avait sans doute une autre coloration. Elle en a prélevé quelque chose comme une célébration de la jeunesse dionysiaque dans la propre ivresse d'elle-même, d'une certaine manière. Mais ce qui m'intéresse, c'est que derrière finalement cette ode au printemps, et un printemps un peu viril, un peu massif, derrière cette ode au printemps qui fait semblant de retirer le politique, j'ai l'impression que le politique revient par l'épaisseur de la voix. C'est, dans le rapport de l'histoire et de la poésie, je me dis que parfois les poètes qui n'ont pas dit l'histoire ou qui n'ont pas prétendu la dire, la disent mieux que ceux qui prétendaient la représenter. Et j'ai l'impression que dans ce va-et-vient entre la dimension idéologique, politique et la dimension peut-être plus bucolique que fait Colette Magny, il y a à la fois une trahison et en même temps un retour sur ce lien à l'histoire. Pour moi, ça devient une figuration parfaite de personnages du 19e siècle. En tout cas, ils sont là.
Ils sont là. Oui. Une figuration est évidemment pas une illustration, ce qui est une manière effectivement de prêter oreille à la façon dont la poésie se ferait un chemin dans l'histoire. Et cette histoire, au fond, pour vous, Olivier Barbaran, c'est aussi celle que nous entretenons avec la jeunesse. Ça revient sans cesse et dans votre poésie et dans la manière dont vous en parlez. Et peut-être aussi, on pourra en dire quelques mots sur votre engagement professionnel. Vous avez en charge l'inspection générale. Vous êtes doyen du groupe des lettres à l'inspection générale. Nous sommes redevables à la jeunesse.
Oui, on parle beaucoup de devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, je n'y crois pas, mais le devoir que nous avons pour le présent et pour le futur, j'y crois vraiment. Je pense qu'on ne peut pas, tout simplement être porteur de tant de beauté qui nous nourrissent et ne pas essayer de savoir comment on peut vraiment contaminer, répandre cela. C'est un crime contre soi, contre l'esprit, contre ce à quoi on tient. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'imposer un patrimoine qui serait le bon, il s'agit de donner le goût d'avoir ensuite un renvoi de gens qui feront le tri. Mais je crois que la question de la transmission se pose tout autrement qu'elle ne s'est posée, sous une forme sans doute à inventer, mais qu'elle est une urgence. Et en tout cas, s'il y a un devoir, c'est le devoir de faire présent, pas le devoir de mémoire. Et faire présent avec ce dont on est porteur, ce qui nous nourrit, ce qui nous plaît, oui.
Et de ce point de vue-là, Olivier Barbaran, vous qui êtes au contact directement avec la question politique que pose la transmission de cette culture lettrée, et au-delà, on le comprend, d'un certain rapport à l'histoire, votre confiance est inentamée aujourd'hui?
Cher Patrick Boucheron, c'est une question embarrassante. Elle est inentamée dès lors que je suis, cela m'arrive, au fond d'une classe où quelque chose se passe, dès lors que la vie s'est réappropriée tout cela, et dès lors que les textes sont rendus à leur vie, dès lors que le poème est ce qu'il est, c'est-à-dire palpitant, secoué, déchiqueté, cassé. Ce que je crains, c'est qu'une certaine forme de patrimonialisation ou de pratique scolaire de la littérature, de la poésie, l'empêche d'être elle-même. Il y a une capacité d'écrasement du texte par de fausses gloses ou par le discours qu'il faut tenir dessus. Je crois que l'urgence est d'apprendre à entendre, et on veut absolument que les élèves soient plutôt assistent plutôt à l'explicitation de textes qu'ils n'ont pas éprouvés. Et alors parfois, oui, ma confiance est entamée quand le texte n'est plus ce qu'il doit être, c'est-à-dire un tissu hypersensible, hein, qu'il devient un catalogue dans lequel on prélève quelques exemples pour illustrer des figures de rhétorique. il m'arrive d'être un peu triste. Mais dès lors que quelque chose se joue dans une classe, je sais que le sens est là.
Dans vos odes dérisoires et quelques autres un peu moins, parues aux éditions Champvallon en 2019, il y a celle-là qui est une ode à la mélancolie, où l'on lit « Quelquefois le passé ne passe pas vraiment, il résiste, et c'est comme un sable ou des oiseaux disséminés sur le minuit de la mémoire, tout un désordre d'équinoxe, chaque étoile coupée saignant d'un souvenir. » C'est ça en fait. Mais ce qu'il faut dire, Olivier Barbaran, c'est que dans notre jeunesse, nous sommes de la même génération. Oui, on allait chercher les figures de style dans les textes et on n'allait chercher que cela. Vous vous en souvenez quand même.
Mais hélas, les choses n'ont pas énormément progressé. On est allé chercher peut-être des situations d'énonciation, mais le monde qui affleure ou que rebrasse la langue dans toute tentative littéraire, il est rarement présent. C'est peut-être très difficile, hein, je ne jette la pierre à personne, mais je crois que tant qu'on n'aura pas compris que nous sommes professeurs de français, des passeurs d'expérience, en ce qu'il faut faire éprouver des textes, et puis on verra bien ce qu'on en dit après, mais commençons par les éprouver, mais je veux qu'on se taise quand on cesse de sentir. Bon, je ne veux pas qu'on parle avant d'avoir senti en classe de français, oui.
Vous avez toujours su, Olivier Barbaran, que justement ces deux séismes, comme vous l'écrivez parfois, qui sont les séismes de l'histoire et les séismes de la chair, enfin l'histoire de notre propre intimité et celle qui dévale au fond d'un temps plus majestueux, qu'ils étaient noués, vous l'avez toujours su ou à certains moments de votre vie, ça vous a rattrapé et étonné?
J'ai l'impression que... Non, je ne crois pas l'avoir toujours su. Je serais dans une représentation de moi bien, bien prétentieuse. J'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que ce que notre génération a traversé a été une expérience historique, qui a été celle du déclin des corps. Finalement, là où Aragon, c'est à la fois son destin, sa tragédie et sa chance, a traversé deux conflits, des tentatives de révolution, des espérances, des désillusions, l'entrée dans la vie adulte pour nous, ça a été de découvrir à la fois l'expérience de la chair et ce que la chair vivait à l'époque, c'est-à-dire le sida et l'hécatombe du sida. Dès lors, il y avait un événement historique qui a été directement inscrit dans les corps.
Et qui, effectivement, alignait toutes ces histoires.
Alors, je ne sais pas si on peut les aligner. C'est une histoire nouvelle, différente. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'il en est allé du sida comme des guerres. Enfin, j'ai eu l'impression que toujours tous ces rapprochements sont toujours frauduleux et un peu dérangeants, même du point de vue éthique. En tout cas, la classe 17 que j'ai faite, moi, l'histoire a fait que ce n'était pas la classe 17 de partir au front, c'était la classe 17 de voir périr mes amis.
Et vous l'écrivez, d'ailleurs, dans un grand instant où vous... Un très beau poème et poignant où vous dites que, au fond, vous n'étiez peut-être pas tout à fait. Il n'était pas prévu qu'il vieillisse.
Oui.
Dites-vous.
Oui. C'est... Il y a des choses qui sont plus faciles à écrire qu'à dire.
Je comprends.
Ce n'était pas prévu. Et comme ce n'est pas prévu, cela a conduit à un rapport au temps lui-même un peu changé. Un peu changé, puisque la dimension de la durée, par exemple, était quelque chose qui ne pouvait pas compter, ni dans nos amours, ni dans nos relations. Et j'ai dû apprendre progressivement cette dimension historique intéressante qu'est la durée, et je n'aurais pas l'imbécilité de m'en plaindre.
La mort des parents est tristement prévisible, mais n'en reste pas moins une entaille bouleversante, et vous l'écrivez dans ce magnifique poème qui s'appelle « Missolonghi 2012 », Jean-Baptiste Parra, dans la préface qu'il donne à vos odes dérisoires et autres poèmes en poésie Gallimard, attire à juste titre l'attention sur ce poème. Vous pouvez peut-être dire un mot de sa situation.
Oui. Ma mère entretenait un rapport de proximité avec la Grèce. Elle y est allée plusieurs fois, elle aimait ce pays. Ma mère était de lointaine origine italienne et quelque chose se renouait là avec la Méditerranée. Et ce pays a été aussi important parce que dans le passé des acteurs politiques qu'il pouvait être à l'époque, J'avais une géographie qui était liée à la Grèce des colonels, comme au Chili d'Allende, voilà. Et donc, elle était très heureuse de pouvoir se promener, porteuse d'ailleurs elle-même d'une illusion qui dit quelque chose de générationnel sur la merveilleuse entrée de la Grèce dans le marché commun, puis dans l'Europe, pensant que la démocratie progressait par cette intégration européenne. Donc, on voit aussi l'évolution de sa propre pensée. Et après sa mort, la crise s'est emparée de cette Grèce. Et la Grèce n'est pas vraiment démêlable pour moi des derniers messages que ma mère m'avait adressés d'un très beau séjour qu'elle y avait fait. Et du coup, tout ça se noue, encore une fois.
Dans le titre même, Missolonghi, 2012.
Et Missolonghi, évidemment, ce n'est pas tellement la destination de ma mère, c'est Byron, qui meurt à Missolonghi en allant... en me renvoyant moi-même à cette question de la poésie et de l'histoire. Byron, de façon lyrique et épique à la fois, va en Grèce dans ce grand combat qu'a été pour les romantiques du 19e cette indépendance grecque. Il y meurt. Que fait un poète d'aujourd'hui devant un autre naufrage qui était à l'époque économique d'un pays aimé? Comme toujours, j'ai l'impression que je procède quand même à beaucoup d'enterrements, finalement.
On ne dit pas aux inconnus, madame, comprenez, à l'autre bout du bleu, un pays est en ruine. Et tandis qu'on prétend lui faire la leçon, je me souviens d'un temps où des poètes se sont battus, jetant non pas que l'encre, mais leur corps même, dans la mêlée. L'un d'eux, malade, tremblant de fièvre, et dans l'opale de son regard, pour toute vue, la soie froissée d'une lagune sous les fumées devenues noires. Ça, c'est Byron.
Oui, c'est Byron.
C'est cet engagement. C'est ce que, dans un très beau livre qui s'appelle Vertige de la guerre, Hervé Mazurel appelle les noces de la guerre et du voyage. Et puis, on retrouve peut-être quelque chose comme les brigades internationales. Non, enfin, c'est une cause. Ce sont des jeunes qui vont se battre dans un pays qui n'est pas le leur, pour une idée qui va les dépasser et leur survivre.
C'est une cause qui me bouleverse, mais où la question est, je ne me ferai pas le chanteur a posteriori d'une cause. Je m'interroge simplement sur les possibilités, encore une fois, de mon instrument poétique face à cette cause. Alors j'ai été un peu démenti, et finalement, puisque je passe plutôt mon temps à dire que dans le dernier recueil, il y a un poème qui s'appelle « Nous écoutons
oui. »,
qui dit là encore ce désarroi dans lequel je suis, d'être saisi par la flamme de la révolte et sans la possibilité ou pensant ne pas avoir la possibilité, quel que soit le travail qu'on fasse, de pouvoir l'inscrire aussi directement dans un mouvement qu'on le faisait jadis. J'ai tout de même été un peu démenti puisque Missolonghi 2012 a été est un des rares poèmes qui a été traduit, ce seul poème en grec pour la Grèce par le Centre culturel d'Athènes et je l'y ai lu. À Athènes, j'avais dit...
En quelle année ?
C'était peu de temps après sa parution, donc c'est en 2013 ou 2014 que j'ai dû être invité, avec d'autres poètes français, c'est une anthologie de poètes français. Hein. Mais ils ont choisi celui-ci, et j'ai pu le lire, et j'ai pu savoir qu'il était passé en grec. Donc, moi-même qui suis un peu trop élégiaque à dire « ça ne sert à rien », j'ai découvert tout de même que quelque chose, là encore, s'infiltrait.
Et vous écrivez justement dans Un grand instant, qui est le dernier recueil dont vous parliez, Olivier Barbaran, paru toujours chez Champvallon, votre éditeur, avec un peu de larmes, avec un rien de sang, la douleur arrange le monde. C'est ça en fait, c'est cet arrangement avec le monde que vous cherchez. Aragon est toujours votre guide de ce point de vue-là.
Oui.
De manière infaillible pour vous, de manière intacte.
Je m'accuse parfois de dolorisme, je le soupçonne parfois lui aussi d'une certaine forme de christologie un peu endolorie, mais plus profondément, oui. Il faut tout de même que ça fasse douleur, il faut tout de même que ça fasse bleu. Une des plus belles formules d'Aragon, c'est qu'il cherche à savoir s'il fait bleu dans l'homme à force de noir.
Et vous aujourd'hui, Olivier Barbaran, vous continuez à chercher votre forme poétique où vous vous êtes assagi ou d'une certaine manière acclimaté à l'idée qu'elle vient quand elle veut et sous la forme qu'elle désire elle-même.
Oui, oui, Patrick Bouchon, la chance que donne peut-être l'apprentissage de la durée, c'est que il y a une certaine forme d'impatience tout de même à voir enfin cette frénésie d'écriture prendre forme d'un livre. À partir du moment où il y en a quelques-uns, on lui laisse la bride plus plus longue et on ne s'inquiète plus vraiment de savoir si tout cela va donner un livre ou pas. Le printemps, c'est clair quand il peut et quand il veut. Et c'est vrai que la poésie a ce grand avantage d'être une forme discontinue qui n'implique pas qu'on s'enfonce comme chez les romanciers dans un travail de longue haleine. Donc les choses viennent. Je sais très bien que je suis 99% du temps pas poète, et puis de temps en temps je suis poète.
Oui. De toute façon, c'est la définition la plus juste et la plus réaliste d'un écrivain, c'est que la plupart du temps il n'écrit pas.
Oui, mais je ne prétends pas non plus faire provision de quoi que ce soit pour écrire. Peut-être que cette sécrétion se fait inconsciemment, mais en tout cas, vous souvenez de ce personnage de La Recherche que le narrateur ne veut pas, celui qui se promène avec son monocle sur l'œil en disant j'observe, non, moi je n'observe pas, je reçois.
Et quelque chose que j'ai reçu, moi, et qui m'a beaucoup touché, Olivier Barbarin, voilà, j'y ai fait quelques allusions maintenant. L'auditeur ou l'auditrice a le droit de connaître le fin mot de l'histoire. Nous nous sommes connus il y a bien longtemps, une trentaine d'années. Nous étions en Hippocagne, et puis on s'est peut-être un peu perdu de vue. Et un jour, j'ai vu dans une librairie, Les Hôtes dérisoires, Olivier Barbarin, la poésie Gallimard. J'ai vu votre visage. Et je me suis souvenu quand même du temps où nous fûmes jeunes hommes, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on pouvait à ce moment-là espérer de mieux que d'avoir sa poésie Gallimard? Et en même temps, c'est pas si gros une poésie Gallimard, c'est quand même presque une vie qui vient s'y précipiter.
Oui, la question du format ne se pose pas vraiment. Je vous remercie, Patrick Boucheron, de rappeler ces beaux moments. Permettez-moi de vous dire que vous étiez déjà celui que vous êtes, c'est-à-dire terriblement impressionnant d'intelligence, et que c'était assez. Je suis moi-même assez touché de penser que. Imaginez-vous que vous seriez vous aussi celui que vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas. Pour ce qui est de la taille, mon rêve absolu serait de trouver le verre. Le verre qui suffise à résumer les choses. Donc que ce soit mince, c'est plutôt une très très bonne chose. J'espère bien parvenir à faire tenir le grand instant de la poésie dans encore moins.
Ben c'est justement le dernier aveu. Oui. Celui qui, dans un si grand instant, commence ainsi « J'aurais voulu écrire un poème à rendre à faune tous les oiseaux ». Ce poème à venir, qui ne serait que d'un seul vers, et pourtant vous continuez à cheminer avec vous, je le vois, vous l'avez devant vous, avec la pléiade d'Aragon et de ces dizaines de milliers de vers. Donc il ne faut pas désespérer, au fond.
Ah non, aucune désespérance. Parmi les dizaines de milliers de vers d'Aragon, j'aimerais dire combien une forme est à découvrir, combien l'avenir d'Aragon est devant lui, compte tenu d'un livre qui n'est pas lu, dont je pense qu'il n'est pas lu, nous parlions des livres qui sont lus, qui est Le Fou d'Elsa. J'ai vraiment l'impression que Le Fou d'Elsa est un livre pour le 21e siècle, en ce que il se noue à cette question que vous me posiez, qui a traversé, je crois, nos échanges. Dire la défaite, est-ce simplement prendre acte de la défaite, ou n'est-ce pas poser la possibilité de demain? En disant la chute de Grenade, Aragon invente un royaume pour la poésie.
Merci Olivier Barbarin. Matière à penser, Olivier Barbarin, Joséphine Lempréhien, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron.
Merci Patrick Boucheron.
Merci à vous Olivier Barbarin. Et demain, nous poursuivons cette réflexion sur poésie et histoire avec un autre poète, Jacques Jouet. À demain, bonne soirée.